Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, animée par l'équipe des Films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions déjà diffusées sur cette antenne sont disponibles sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog. culture-prohibé.blogspot.com.
Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. Evidently, there's some difficulty with our field transmission. However, we will return to that point at the earliest opportunity. In the meantime, we have a late bulletin from San Diego, California. Professor Indelkoffer, speaking at a dinner of the California Astronomical Society, expressed the opinion that the explosions on Mars are undoubtedly nothing more than severe volcanic disturbances on the surface of the planet.
Au sommaire aujourd'hui, une spéciale bande dessinée avec tout d'abord deux ouvrages parus chez Futuropolis, Blackout de Lou Hui Fang et Hugues Micol, ainsi que A Fake Story de Jean-Denis Pendanx au dessin et Laurent Galandon au scénario, que nous retrouverons en entretien dans la première partie de l'émission. On abordera également les chefs-d'œuvre de Lovecraft, adaptés par le mangaka Gu Tanabe, ça s'est paru chez Kihun. Nous aborderons Moule Attaque tome 2 de Ren Dibussy et Karine Bahanag, et ça c'est édité par Afiri Studio. Et on parlera de Lumumba de Batia Simba, bande dessinée publiée aux éditions du Crayon Noir. Batia Simba sera avec nous pour évoquer sa BD consacrée à cette grande figure de l'indépendance du Congo belge qui était Patrice Lumumba. Pour causer 9e art, je suis aujourd'hui accompagné de Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
L'équipe de Culture Prohibée remercie Manon Dumas Maurès et Anne-Gaëlle Fontaine pour leur aide sur cette émission. Également présent dans ce studio, Thomas Roland, dit le loup-garou picard, qui chaque nuit de pleine lune enregistre à l'écoute du cinéma, diffusé sur RCA. Salut Thomas.
Salut Damien, salut Gégé et bien évidemment salut à toutes.
Pour débuter cette émission, je vais aborder une bande dessinée qui a fait beaucoup parler d'elle, parce qu'elle a rencontré un franc succès, était sélectionnée à Angoulême, hein, elle était dans le, pressentie même pour obtenir un prix, cette bande dessinée. Et cette bande dessinée, c'est Blackout de Lou Hui Fang et Hugues Micol. Alors, c'est une bande dessinée qui raconte le parcours, c'est une magnifique BD en noir et blanc en fait, qui raconte le parcours d'un certain Maximus Wilde, et ça démarre en 1936 lorsqu'il a 15 ans. Il est repéré par Cary Grant, hein, qui trouve qu'il a un physique particulier, qu'il a une peau cuivrée. Alors c'est dû à ses origines, puisque ce personnage, qui est un personnage de fiction mais qui va se balader que dans des faits réels, eh bien effectivement il a des origines particulières, parce qu'il a des ascendants noirs, asiatiques, mexicains et amérindiens. Et donc il serait évidemment issu de la lignée de Wild Horse. Alors évidemment, son physique atypique va faire qu'il va tourner dans beaucoup de productions prestigieuses, chez Frank Capra, chez Sternberg, chez John Ford, chez Hitchcock. Voilà, enfin c'est... Et bon, tous les films abordés sont vrais. Tous les personnages qui l'entourent sont vrais. Lui n'existe pas, évidemment. Mais c'est en fait, à travers ce personnage fictif, en fait, c'est le destin de toutes les minorités qui sont abordées, les minorités, comment elles étaient traitées dans le vieil Hollywood. Parce qu'on on va voir des homosexuels, on découvre très vite que bon, bah, les homosexuels se cachent pour grandir, comme dirait l'autre. Hein, c'est-à-dire, pour devenir des stars, on n'est pas homosexuel, on est forcément hétérosexuel. On découvre, évidemment, à travers... On voit beaucoup Ava Gardner... On voit beaucoup également Rita Hayworth. On découvre leur parcours et surtout comment elles étaient façonnées par les studios. Enfin, tout ça, bon, pour les cinéphiles, on le sait, hein, mais du coup, tout ça nous est raconté avec en même temps les tournages de films. Donc, on a un moment une engueulade homérique entre John Ford et John Wayne, hein, c'est John Wayne qui pète un câble en disant que bon voilà, il va aider McCarthy, qu'il va aller choper tous ces salauds de communistes et tout ça, il est complètement sous. Et puis John Ford lui répond, t'as de la chance que t'es un dieu à l'écran parce que t'es vraiment con quoi. En gros, il lui dit ça, voilà. Et je sais que ce passage d'ailleurs plaît beaucoup à Raoul Peck, le réalisateur qui fait la préface du livre. Alors, Raoul Peck, qu'on avait reçu il y a très 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 longtemps dans l'émission, voilà, quand il était venu au festival du film d'Amiens. Le livre parle aussi des Noirs, des Latinos, des Indiens, forcément, à travers ce personnage. Alors évidemment, à chaque fois, on lui prête des rôles. Par exemple, il a joué la mort chez Hitchcock, masqué, évidemment. Enfin, on dit qu'aujourd'hui, on a effacé toutes ces traces de toutes les pellicules et qu'aujourd'hui, on peut quasiment plus voir de films avec Maximus Wilde. On retrouve aussi des personnages mythologiques d'Hollywood, la fameuse, entre guillemets, Peng Entwistle, personnage moteur du Mulholland Drive de Lynch, hein, cette actrice prometteuse qui était adulée par Bette Davis et qui s'est jetée du H de Hollywoodland et qui est morte à 24 ans parce qu'elle n'arrivait pas à décrocher de rôle en 1932. Elle s'est jetée alors qu'en fait, dans sa boîte aux lettres, son père découvre qu'elle venait de décrocher un grand rôle. Mais bon, trop tard, elle était déjà morte. Voilà. En fait, c'est toute l'histoire... à la fois d'un certain Hollywood, du vieil Hollywood, et aussi de la manière dont on représentait les minorités, les Indiens. Alors, évidemment, c'est un livre qui s'inscrit dans une certaine mouvance, hein, dans ce qu'on appelle la cancel culture. Alors, ça peut plaire, ça peut agacer, voilà, parce que ce Maximus Wilde, par moment, on a l'impression qu'il a lu tous les traités de sociologie publiés actuellement et qu'il connaît tous des cultural studies parce qu'il a un discours militant qui est complètement surréaliste. Enfin, je veux dire, voilà, qui est un peu too much par moment, je trouve. Mais c'est une BD magnifique. Les dessins sont superbes. Il y a des scènes oniriques qui sont magnifiques. Avec on se perd par exemple dans le chignon de l'héroïne de Vertigo, dans le chignon de Kim Novak. Enfin, il y a plein de moments comme ça. Donc, c'est une BD assez unique qui mélange en fait engagement politique et cinéma. Et bah, évidemment, c'est une BD qu'on vous conseille dans Culture Prohibée. Écoutez Culture Prohibée. Alors, cette BD, donc Blackout de Lou Weifang et Hugues Micol, était parue chez Futuropolis. Elle est parue, pardon, chez Futuropolis. Et je vais vous parler d'une autre BD parue chez Futuropolis. C'est A Fake Story de Laurent Galandon et Jean-Denis Pendanx au dessin et Laurent Galandon au scénario. Alors, le titre complet, c'est A Fake Story d'après le roman de Douglas Burroughs. Voilà, je le dis, je me fais taper sur les doigts dans l'entretien, gentiment, évidemment, par Laurent Galandon, parce que oui, on a été à la rencontre de Laurent Galandon, donc qui s'empare de la fameuse nuit où Orson Welles a adapté H.G. Wells, donc La Guerre des Mondes, en émission radio, en pièce radiophonique, et a provoqué un petit vent de panique aux États-Unis parce que certaines personnes ont cru que c'était réel et que les extraterrestres les attaquaient réellement. Et Laurent Galandon, donc, il imagine une histoire qui part de cette nuit-là, et sauf qu'il y a un meurtre cette nuit-là, il imagine un suicide, pardon, d'une famille qui se suicide, mais justement, est-ce bien un suicide ? Voilà, qui se suicide cette nuit-là parce qu'elle a peur des extraterrestres. Alors... On va de toute façon tout de suite aller à la rencontre de Laurent Galandon et lui poser la question. Alors tout d'abord, moi je voulais savoir, parce qu'il parle d'une émission de radio pour écrire le scénario de A Fake Story, je voulais savoir quelle place la radio tient dans son imaginaire, puisqu'il avait déjà signé un ouvrage qui s'appelait Interférence sur le mouvement des radios libres. Donc commençons déjà par demander à Laurent Galandon quelle place tient la radio dans son imaginaire personnel.
La radio, c'est un peu mon quotidien, hein. C'est-à-dire que je l'écoute assez régulièrement, plus encore aujourd'hui grâce au podcast, qui permet encore une autre appréhension du média. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est dans mon quotidien. Et puis donc en fait cette émission d'Orson Welles, elle était assez atypique, puisqu'elle va à un moment donné créer tout un phénomène qui a été un peu surdimensionné en fait, comme on le découvre à travers la lecture de Fake Story, puisque c'était en fait finalement c'est un des premiers fakes radiophoniques, si tant est qu'il y en a eu d'autres, probablement qu'il y en a eu d'autres, mais voilà.
A Fake Story part d'un suicide collectif d'une famille qui est imputée donc au canular radiophonique de Welles, hein. Comment vous, cette idée vous est venue? Comment vous vous êtes dit cette histoire? Comment elle vous est venue? Parce que après tout, on aurait pu en rester là et pas partir de ce canular. Pourquoi vous êtes parti de ce canular?
Alors en fait, ce qui se passe, c'est que ce canular radiophonique, dont on ne sait pas même encore aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que même les historiens, que ce soit les historiens du cinéma ou les historiens de la radio, ne savent pas si Orson Welles avait mesuré réellement la portée de son adaptation et son caractère de canular, de fake. Donc on est en 1938, hein, la radio est un média émergent. La forme que propose Orson Welles pour cette adaptation est une forme très journalistique, c'est-à-dire vraiment à la manière d'un reportage en direct, à l'instar de ce qui avait pu se passer quelques temps plus tôt avec l'explosion de l'Édimbourg. Donc finalement, les gens qui prennent ça en ligne ont le sentiment qu'ils entendent effectivement l'arrivée d'extraterrestres sur la Terre. Moi, ça m'a fait penser à un moment donné au 11 septembre. Quand j'étais dans ma voiture le 11 septembre, je me rappelle très bien, j'ai eu cette espèce de truc, mais en me demandant si c'était vraiment la vérité, quoi, si c'était vraiment en train de se passer, tellement ça paraissait extraordinaire. Bon, sauf que là, on était en 2001, l'adaptation d'Orson Welles, c'est en 1938, le rapport aux médias n'est pas tout à fait le même. Donc, il y a des gens qui vont y croire. Seulement, il n'y a pas tant de gens que ça qui vont y croire. Hein. Finalement, il n'y a que 2% de gens qui ont la radio aux États-Unis. L'émission d'Orson Welles est une émission qui n'est pas encore très, très connue, donc il n'y a pas tant de gens que ça qui l'écoutent. Mais par contre, comme la radio commence à faire de l'ombre à la presse papier, aux journaux plus classiques, eh ben, ceux-ci vont monter ça en épingle pour discréditer la radio. Donc il y a effectivement eu des gens qui ont été saisis de panique, hein, à ce moment-là, du fait de la forme que proposait Orson Welles. Et moi je me suis dit, bah, tiens, et si, voilà, c'est un peu le principe de tout raconteur d'histoire, hein, c'est-à-dire qu'on se pose, en tout cas quand on s'appuie sur un fait réel, comme celui de l'émission d'Orson Welles, eh ben, et si des gens suffisamment paniqués, on avait décidé que plutôt que de subir les extraterrestres, ils préféraient se suicider. Voilà. Et donc je pars de ce postulat-là et de ce phénomène d'exagération provoquée par la presse papier de l'émission d'Orson Welles.
Et comment s'est effectué le travail d'écriture parce que vous parlez d'une période bon, qui est relativement récente, mais quand même, bon, vous dites que vous partez d'un ouvrage d'un certain personnage qui fait ça fait presque partie du titre d'ailleurs, voilà.
Oui, mais... je vous ai pas repris tout à l'heure parce que vous présentiez, mais en fait le titre de notre ouvrage, je sais pas, A Fake Story, c'est A Fake Story d'après le roman de Douglas Bureau. C'est vrai que c'est un titre un petit peu à rallonge, mais d'après le roman de Douglas Burroughs, fait pleinement partie du titre de notre album.
Ce Douglas Burroughs, c'est un peu vous, en fait. Comment vous avez travaillé à l'écriture de cette BD pour justement reconstituer l'époque, la campagne américaine du New Jersey. Là, on parle de Grover Mills, par exemple, qui a une place importante dans le bouquin. Comment vous avez bossé l'écriture vraiment de cette BD?
Alors, de manière assez classique, hein, finalement, comme je peux le faire sur tous mes albums. C'est-à-dire qu'il y a un gros travail de documentation. Alors, tant sur d'abord l'événement lui-même, hein, la pièce radiophonique d'Orson Welles. Là, il y a différents essais qui ont pu être écrits sur le sujet. Un peu ensuite, de manière. Je parle souvent de cercles qui s'élargissent. C'est-à-dire que je pars d'abord du sujet pur de mon histoire, c'est-à-dire le principe du fake d'Orson Welles. Et puis ensuite, j'élargis progressivement mon cercle pour voir ce qui se passe à cette époque, quelle est la mentalité. Voilà, donc je vais aller chercher comme ça toute une série de petits événements que je vais pouvoir tirer et ramener dans mon histoire. Après, le travail graphique, c'est celui de Jean Denis, qui est un brillant dessinateur, un peintre, et qui lui-même va aller sur tout un travail de documentation, notamment photographique, pour pouvoir reconstituer et reproduire quelque chose qui une patine qui est celle de cette époque de 1938.
Vous écoutez Laurent Galandon, scénariste de A Fake Story, d'après le roman de Douglas Burroughs, paru chez Futuropolis, au micro de Culture Prohibée. Il y a un vrai travail qui peut évoquer le photoreportage à l'américaine, quoi. Vraiment, on est en plein dedans avec effectivement l'aspect peinture. Comment vous bossez ensemble ? Vous composez les plans ensemble, parce que c'est presque cinématographique comme BD, hein, dans le découpage en tout cas. Ou bien est-ce que vous envoyez le scénario et c'est lui qui crée tout comme ça de A à Z, cet univers graphique ?
Non, alors moi j'ai un fonctionnement qui est aussi, somme toute, assez classique, hein, c'est-à-dire que je fais ce qu'on appelle le découpage en bande dessinée, c'est-à-dire que je découpe par planche, par case. Donc pour chacune des planches, je détermine le nombre de cases que je veux voir apparaître dans la planche, ce qui se passe dans chacune des cases, et les dialogues des personnages ou les cartouches, quand c'est des cartouches. Donc c'est ce qu'on vraiment une proposition de mise en scène que je soumets à Jean-Denis, et lui se l'approprie et va agencer ces cases les unes par rapport aux autres, choisir éventuellement de mettre celle-ci plus en valeur qu'une autre, choisir bien souvent le cadrage, c'est-à-dire que moi, je ne suggère des cadrages que si le cadrage a un sens narratif fort. C'est-à-dire que, pour vous donner deux exemples un peu techniques, mais assez simples, c'est-à-dire que si on fait trois grandes cases panoramiques, par exemple, ça, je peux le soumettre cette hypothèse-là, parce que c'est un moment où je veux que le temps s'étire, que le lecteur ait un œil qui se promène sur la planche avec un petit peu plus de temps, donc pour que le temps s'étire, ou un autre exemple, une plongée ou une contre-plongée, ça a un sens narratif, c'est-à-dire que si on propose de faire une plongée sur un personnage, c'est qu'on veut qu'à ce moment-là le lecteur ait un sentiment que le personnage dans la case est un peu écrasé, un peu oppressé, voilà. Ou inversement, si on lui demande une contre-plongée, c'est pour montrer un personnage un peu dominant. Donc voilà, donc si par moment comme ça je vais suggérer des cadrages, mais sinon dans la majorité des cas, c'est Jean-Denis qui va s'approprier cette proposition de découpage et l'agencer en planche.
Et l'ouvrage, alors, évoque des mots, on l'a compris, hein, qui sont bien d'actualité, même si l'histoire se déroule en 1938. Racisme, viol, manipulation médiatique. La dernière planche, d'ailleurs, rappelle à quel point l'histoire est liée à la mystification. Alors, j'ai envie de vous poser comme question, 1938, 2021, même combat ?
Alors, même combat, je ne sais pas si c'est le même combat. En tout cas, c'est dans cet album, c'était de montrer que finalement, un certain nombre de phénomènes qu'on connaît aujourd'hui et qui sont même exacerbés aujourd'hui par le développement des médias, existaient, étaient déjà en germe à partir du moment où médias existent, fake existe, quoi. Voilà, c'est-à-dire que on peut transformer la réalité ou elle peut se déformer en fonction de là où on se situe, et que donc s'il devait y avoir un message, moi je suis d'abord un raconteur d'histoire, l'histoire. Et ce que j'espère, c'est que le lecteur prenne plaisir et se plonge dans l'histoire que je propose. Mais s'il devait y avoir un message, ça serait celui d'être toujours vigilant. C'est-à-dire à un moment donné, quand on est confronté à une histoire ou à un fait, et ben de toujours un petit peu prendre le petit pas de côté ou le pas de recul pour s'assurer que ce qu'on nous raconte est juste. D'où le titre A Fake Story, d'après le roman de Douglas Bureau. Puisque cette bande dessinée est adaptée d'un roman de Douglas Bureau, qui est lui-même un personnage de cette histoire.
En tout cas, moi, je rappelle, hein, donc, alors, vous venez de rappeler le titre, je rappelle l'éditeur aussi, Futuropolis. Mm-hmm. Donc, le titre complet, c'est A Fake Story, d'après le roman de Douglas Burroughs, sinon je vais me faire taper sur les doigts.
Non, parce qu'en fait, globalement, tout le monde parle de Fake Story, mais comme on le fait pour souvent quand on est sur des titres un peu longs, on a tendance à les raccourcir. Mais le titre complet, c'est bien celui-là, oui.
Oui, parce que le personnage a un rôle très important. Voilà,
voilà.
C'est un personnage central. Bravo pour cette bande dessinée, qui est pour moi une des bonnes BD, une bonne surprise de ce début d'année de 2021. Et vous bossez, je suppose, sur autre chose, avec des projets, vous êtes...
Oui, alors on est en bande dessinée, on est souvent sur plusieurs projets en même temps. Donc là, j'ai un autre livre qui est sorti ce mercredi, là, qui est le tome 2 de Retour de Flamme, qui est un polar qui se passe pendant l'occupation, mais avec la particularité de se passer dans l'univers du cinéma pendant l'occupation. Donc c'était tout un phénomène assez intéressant, puisqu'en fait beaucoup de films un peu majeurs même du cinéma français ont émergé durant cette période, et pour différentes raisons. Donc voilà, c'est aussi un polar où on suit une enquête policière, mais dans l'univers du cinéma pendant l'occupation. Voilà, et puis qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai deux, trois autres projets qui sont dans les tuyaux, mais qui là vont mettre un petit peu de temps à émerger, puisque les dessinateurs travaillent actuellement sur les premières planches, et puis moi j'avance comme ça un petit peu au fur et à mesure.
Bah écoutez, on vous remercie beaucoup, on suivra tout ça avec attention. Je voulais juste dire qu'au moment où on enregistre cette émission, enfin cette interview, on est le 25 février, donc le livre est sorti le 24 février, Retour de Flamme. Mm-hmm. Et puis, bah écoutez, on vous remercie à nouveau. Et puis,
merci beaucoup, merci de votre accueil. Et puis voilà, j'espère que ça invitera des gens à découvrir cette histoire. One, give me two, give me vibes and you like this. Mauvaise nouvelle, j'entends des fausses nouvelles, mais c'est mauvaise nouvelle, j'entends des fausses nouvelles. Give me sound, give me vibes. A chaque fois ça m'épate, quand on me dit que la terre est plate, je suis devenu mythomaniaque sur le coup des fake news, fake news. Avec tout ce qu'on avale, tous les mensonges qu'on nous déballe, je suis devenu paranoïaque sur le coup des fake news, fake news. Le vrai, le faux se mélange, plus c'est gros, plus j'y crois. Y'en a beaucoup que ça arrange, qu'on gomme n'importe quoi, la rumeur s'emballe et tous les mots deviennent des balles. Vite, il faut que je m'échappe de toutes ces fake news, fake news. Wow, pourquoi fait-il chaud? Dur de rester sceptique quand on bronze l'hiver à Oslo. We don't know, y a-t-il un complot? Tout scientifique quand on lit les réseaux sociaux. Wow, même ces dessins là-haut m'ont filé la grippe, mais je crois que je deviens trop parano. We don't know, que ça soit vrai ou faux. Tout devient la vérité quand tout le monde reprend les mêmes mots. Tell me now, a-t-on touché la lune qui détient les fortunes et qui manie la plume pour nous le raconter? Qui devrait faire la une qui détient les tribunes, qui profite des lacunes pour tout réinventer? Et c'est par naïveté qu'on s'emballe, sans détail, on cavale, sans même vérifier.
Vous écoutez Culture Prouille.
Et sans se questionner, ce que l'on monte, se démonte à l'encontre de la vérité. Chaque fois ça m'épate, quand on me dit que la terre est plate, je suis devenu mythomaniaque sur le coup des fake news, fake news. Avec tout ce qu'on avale, tous les mensonges qu'on nous déballe, je suis devenu paranoïaque sur le coup des fake news, fake news. Le vrai, le faux se mélange, plus c'est gros, plus j'y crois. Y'en a beaucoup, ça arrange, qu'on gomme n'importe quoi, la rumeur s'emballe et tous les mots deviennent des balles. Vite, il faut que je m'échappe de toutes ces fake news, fake.
Nous allons rester dans les univers imaginaires foisonnants, hein, et on va passer de Herbert George Wells à Lovecraft, puisque Damien, toi, tu es venu nous parler d'une série d'ouvrages, hein, publiée chez Ki-Hoon, signée Gutanabe, d'ailleurs, je sais qu'on peut le prononcer de manières différentes. C'est l'adaptation des chefs-d'œuvre de Lovecraft. Alors, il y en a plusieurs, hein, évidemment. Les montagnes hallucinées dans l'abîme du temps, la couleur tombée du ciel, tout ça. Voilà. Enfin, il a adapté aussi l'appel de Cthulhu, je crois. Donc, je vais te laisser nous parler, Damien, de ces adaptations.
Personnellement, je l'appelle Gutanabe, du coup. Et donc, les chefs-d'œuvre de Lovecraft, en effet, est une magnifique collection sortie chez Kiyun. J'ai pas encore lu les montagnes hallucinées qui sont en deux tomes, mais ils attendent impatiemment que je les attaque. Je me suis promené dans l'abîme du temps, j'ai écouté l'appel de Cthulhu et actuellement, je suis en train de lire avec un grand plaisir La couleur tombée du ciel. Alors, Gutanabe adapte les œuvres de Lovecraft avec son grand talent, son style assez unique, sur des pages en noir et blanc, même si on a l'impression que justement ce noir ronge à fur et à mesure les pages et nous laisse glisser dans cet abîme qui nous absorbe petit à petit. Il y a des pages assez spéciales à l'intérieur, c'est-à-dire que nous sommes surtout sur du blanc sur noir, mais que parfois les couleurs s'inversent et ainsi de suite, qui créent des doubles pages qui sont absolument magnifiques. Les décors sont grandioses, Rayleigh est sublime, dantesque et mystérieuse. N'importe quel décor qui fait à ce côté monumental et est laissé abandonner à travers le temps. Le rythme aussi de l'œuvre est très bien adapté. C'est pas juste une transposition des textes, c'est vraiment une adaptation en version manga des écrits de Lovecraft. Et avec son style, ça marche beaucoup. Son style d'ailleurs, qui est assez compliqué à décrire, il a quelque chose d'assez européen, manga européen, quelque chose d'étrange qui colle parfaitement avec les œuvres de Lovecraft. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Gou commence ses adaptations, notamment sur des nouvelles européennes, dont La maison à mezzanine d'Anton Tchekhov. Et je suis d'ailleurs de Lovecraft. À ce moment-là, son style n'est pas encore bien ferme. D'ailleurs, on peut retrouver ses histoires publiées dans The Outsider de Gutanabe sur les éditions Glénat. Retour sur les éditions Kiyun. Donc nous avons de belles couvertures colorées. Ici avec moi, j'en ai une bleue, mais également une rouge pour l'appel de Cthulhu ou marron orangé pour les montagnes hallucinées. Ce qui est assez drôle parce que j'ai commencé à lire Lovecraft avec les éditions du Point qui avaient un code de couleur quasiment identique. C'est-à-dire que l'appel de Cthulhu était également au rouge, donc je suis aux anges. Et surtout, la couverture a un effet cuir qui donne un effet carnet de voyage qui fonctionne énormément avec le style de Lovecraft. J'attends impatiemment leur prochain tome qui va sortir début mars et qui est celui qui est hanté les ténèbres, que je suis également impatient de lire.
Je me tourne vers Thomas Roland. Thomas Roland qui a décidé de mettre en avant la bande dessinée africaine à travers les productions, tout d'abord d'Afiri Studio pour Moulatako, le tome 2, qui est, on avait parlé du tome 1 puisqu'on avait reçu Rennes Dibussy dans l'émission, je me rappelle, Thomas.
Randy Boussy qui revient accompagné cette fois de Karine Bahanag au scénario. Karine Bahanag qui est une danseuse, une chorégraphe professionnelle. Bon, mais là, elle s'initie, elle devient scénariste pour ce tome 2 de Moulatako qui s'appelle Immersion. Donc, on avait laissé les Miengu, ce peuple qui vit dans l'eau. Hein, ce qu'on appelle les Mamiwata, en fait, hein, elle est apparentée à cette déesse de l'eau. Qui fuyaient leur royaume parce qu'atteints d'un étrange virus, ils étaient marginalisés et menacés par la reine du royaume. Et là, cette fois, ils arrivent sur Terre et ils vont découvrir la vie sur Terre qui est quand même assez différente de ce à quoi ils ont l'habitude quand ils sont dans l'eau. Et ils vont avoir affaire à d'autres dangers, notamment à des robots policiers particulièrement agressifs. Alors, Randy Boussy et Karen Bahanag montre, c'est plutôt une BD plutôt engagée, hein, plutôt féministe. Notamment, elle se moque un peu de l'autorité du Cameroun à travers un policier un peu arrogant qui se croit plus malin que les autres, enfin plus malin surtout que les femmes, qui lui montre qu'elles sont quand même un petit peu plus fortes que lui. Et, donc c'est une BD qui est c'est une BD jeunesse, hein, c'est une BD jeunesse. Donc on voit dans le dessin, c'est plus pour les enfants quand même, c'est plus pour un public plus jeune. Donc cette fois, on a un scénario beaucoup plus étoffé. La BD fait quand même une soixantaine de pages, contrairement à la première qui était beaucoup plus mince. Un scénario beaucoup plus étoffé, les personnages bien sûr évoluent, se montrent un petit peu plus complexes. Et on attend la suite avec impatience, parce que bien sûr, ça se termine sur, comme on dit, un cliffhanger, où apparemment il va y avoir de la bagarre au prochain tome. Donc j'attendais ce nouveau tome avec impatience. science. Quand même, je crois qu'il y a eu 2 ans d'écart entre le premier et celui-ci. Et donc, c'est une BD qui est quand même, c'est une BD d'aventure, c'est une BD fantastique qui montre un peu, qui veut montrer aussi une autre mythologie, une mythologie qui est pas si éloignée de celle auquel on a l'habitude avec les super-héros aux États-Unis. Et là, on voit bien les deux auteurs qui veulent imposer une nouvelle mythologie, de nouveaux héros, notamment à travers cette petite fille qui se montre, qui montre une certaine force de caractère et aussi qui fait face à l'adversité avec force aussi. Et on voit bien qu'elles veulent imposer une nouvelle mythologie, une autre nouvelle saga fantastique qui cette fois nous vient du Cameroun et montre une autre facette de ce grand pays. La BD, vous pouvez la commander sur le site de afiristudio.com.
Écoutez Culture Prohibée, spéciale bande dessinée. Du Cameroun, nous allons nous diriger vers le Congo, Thomas, pour parler de Patrice Lumumba.
Oui, la République démocratique du Congo, plus exactement, un ancien Congo belge, vu que c'est le sujet de la BD, de la nouvelle BD de Bati Asimba, qui s'appelle tout simplement Lumumba. Donc Bati Asimba nous livre une BD très franco-belge hein, dans sa mise en page, dans son découpage et surtout dans sa façon qu'il a de coloriser. Je pense que s'il fait tout à la main, et ça donne un style vraiment très particulier à la BD, comme on avait l'habitude de voir dans les albums franco-belges dans les années 70-80, hein, comme avec Tintin, etc. Donc il revient sur la vie de Lumumba, de sa naissance jusqu'après sa mort, hein, pour montrer que Lumumba est devenu de son combat contre l'indépendance, il est devenu maintenant un véritable héros de l'indépendance, une icône qui est célébrée quand même, pas seulement en République démocratique du Congo, mais aussi à travers toute l'Afrique. C'est une BD qui a aussi des partis pris très tranchés. Hein, par exemple, on se souvient du film de Raoul Peck, hein, Lumumba, tout simplement, aussi, qui s'appelait aussi tout simplement Lumumba, qui montrait l'assassinat. Là, Bati Asimba fait le choix de ne pas montrer l'assassinat, il le montre d'une autre manière, par une très belle parabole sur une très belle planche. C'est aussi une façon pour lui d'iconiser le personnage et de le faire entrer dans l'histoire à travers cette BD qui peut très bien faire connaître le personnage à un plus jeune public aussi. Alors c'est une BD qui n'est pas distribuée dans les librairies normales, vu que Bati Asimba fait tout. En Belgique, pour les auditeurs belges, ils peuvent le trouver à Liège dans les librairies suivantes: Livre au Trésor, Casabule, Dépôt BD Liège, Scope BD, Pax, Toute Direction. Si vous habitez Bruxelles, vous pouvez contacter Mamicho au 04 84 88 56 13. En France, la BD peut être commandée auprès du dessinateur Almata à son adresse email. Un seul mot, -70@yahoo.fr.
Nous allons entrer en communication alors avec la Belgique. La ligne n'est pas forcément très très bonne. Hein. Je préfère prévenir les auditeurs et auditrices de Culture Prohibée. Donc on va rentrer tout de suite en communication avec Bati Asimba, donc l'auteur de cette BD Lumumba, publiée aux éditions du Crayon Noir. Bati Asimba, tout de suite au micro de Culture Prohibée.
Cette BD Lumumba est un projet que tu as depuis longtemps, que tu avais depuis longtemps. Et que peux-tu nous dire sur cette envie de cette BD, sur la genèse du projet ?
Il y a beaucoup d'éléments qui ont milité à la création de cette bande dessinée. Déjà, ma rencontre, comme tout à fait par hasard, avec les scientifiques de Lumumba. En 2010, j'ai tenté de signer la BD que j'ai sortie avec mon équipe sur les 50 ans de l'indépendance du Congo, qui avait pour titre Congo 50. Et à cette occasion-là, j'ai vu un jeune homme qui s'est présenté devant moi. Il voulait acheter la bande dessinée avec des classes. Et je lui ai posé la question, parce que l'histoire des 50 ans de l'indépendance du Congo, ça ramassait un peu l'histoire du Congo. Et avec tout ce que nous avons connu comme président, à l'époque, on en avait 5 déjà. 4 présidents. Donc voilà, sur la page de couverture, il y avait les 4 chefs d'État que nous avons connus à 50 ans. Alors moi, je lui ai demandé, qu'est-ce que je dessine pour vous? Il m'a dit, Lumumba. Ben, j'ai dit, pourquoi Lumumba? Parce qu'il était jeune, je crois qu'il avait 25 ans à l'époque, dans 2 ans, 23 ans. Un jeune comme ça qui s'était référé à Lumumba, ça m'a étonné quand même. Et il m'a dit, voilà, je suis son fils. J'écris tout de suite, je commence à dessiner, je les regarde, je dis, c'est pas possible. Lumumba est décédé depuis 40 ans. Comment il peut laisser un enfant qui a une vingtaine d'années, quoi? Je lui repose la question, il sourit, il me dit, non, mais je suis son petit-fils. Là, il n'y avait pas de doute parce qu'à les regarder comme ça, il ressemblait vraiment à Lumumba, quoi. Alors, le jeune homme s'appelle Teddy Lumumba. C'est un rappeur, il signe Teddy L. Voilà. Bon, j'ai signé la BD, je lui ai offert la BD, je ne voulais pas qu'il l'achète, évidemment. Bon, je suis parti plus tard, et puis à un moment, son image est revenue dans ma tête. Je me dis, pourquoi j'ai raconté ce jeune homme? Pourquoi je pose des questions? Parce qu'il y a des rencontres-là, des fois, qui sont un message en soi. Je me suis dit, mais c'est quoi le message de cette rencontre? Bon, je n'avais pas encore défini dans ma tête, je suis parti. 2 ans plus tard, il y avait un festival à Kinshasa, et moi, j'ai participé. Et à côté de moi, il y avait quelqu'un qui a tenu un stand, qui était un intervenant. Et puis, à un moment, on s'est parlé entre voisins, des stands. Il s'intéressait aussi, c'est que moi, je faisais ma BD, tout ça, on a échangé. Ça a duré une semaine pendant la semaine. À chaque fois que j'étais là, on parlait avec lui, on discutait art, on parlait art et tout ça. Et c'était roulant maintenant les fils de Lumumba. Je commençais à me poser des questions. Je me disais, attends, une fois c'était les petits-fils, aujourd'hui c'est les fils même. Qu'est-ce que cela signifie comme message? Les petits-fils, c'est un message que je n'ai pas capté. Et les fils maintenant, c'est les rappels du message que je ne capte toujours pas. Je me posais ces questions. Puis un jour, je me suis dit, puisque je savais Roland, et je pourrais l'amener à la maison, faire une surprise à mes parents. Et je ne dirai rien à Laurent, à Roland. Il viendra à la maison, mes parents ne sauront rien, et puis ils vont se rencontrer. Mon père, je crois qu'il va être content de voir que moi, j'ai parlé avec les fils de mouvement, je changerai. Parce que mon père, il a travaillé avec moi. À Kisangani, à l'époque, c'était dans les villes. Mon père était le président sectionnaire de l'NC, parti de Lumumba à Kisangani. Ma mère même a été encadreuse des femmes du parti, qu'on appelait les femmes nationalistes. Et ma tante paternelle était la présidente des femmes nationalistes du même parti, à Kisangani, toujours à Kisangani, à l'époque. Mais je ne pouvais pas faire ce rendez-vous simplement parce que mes parents ne sont plus de ce monde, ils sont partis, ils sont morts. Mais c'est resté dans ma tête, ça tournait dans tous les sens. Puis un jour, je me suis dit, si je faisais un clin d'œil à mon père. Voilà, c'est parti maintenant de là, quoi. Et toutes les recherches que j'ai faites, les bibliothèques, les livres que j'ai lus, je me suis réuni des réunions du parti à la maison chez nous, à Kisangani. Moi, j'étais tout petit, j'avais 8 ans. Et voilà, et tout ce qu'il y avait comme réunion à l'époque, et les conversations de mon père, ma mère, et tout ça, machin. Et j'ai remonté ça à mon esprit, et j'ai pris des abonnements à la bibliothèque, j'ai acheté des ouvrages, j'ai lu des ouvrages, il y en a des personnes qui ont appris, qui m'ont tenté de faire des recherches sur le Lumumba, m'ont fait des dons, des livres. Ça m'a pris quand même beaucoup d'années, 3 ans pour finaliser la BD. J'avais commencé déjà la bibliothèque en 2010, et quand j'ai créé la BD le Congo 50 avec mon équipe, donc voilà, il y avait déjà sur l'histoire du Congo, il y avait des bruits aussi sur le Lumumba, j'ai emmagasiné tout ça, et puis voilà, c'est remonté à l'archive. Finalement, dans l'ensemble, je peux dire que ça a duré 10 ans, les recherches, conception, écriture, les scénarios, tout bazar, mais les dessins, c'est 3 ans. Voilà, la BD est finie, j'ai les gars de la moitié, je sais que là, ça ne se trouve pas. Moi, j'ai voulu sortir la BD exactement le 17 janvier, la date de la mort de Lumumba. J'ai loupé la première année parce que j'avais pas de sous. J'ai loupé la deuxième année, j'avais toujours pas de sous. Mais en tout cas, j'économisais quand même petit à petit. Voilà. À la troisième année, voilà, la BD vient de sortir, coïncidence. Ça cadre avec les 60e anniversaire de la mort des Lumumba. Donc voilà, c'est ça un peu la genèse de la création de cette bande dessinée. Voilà.
Alors tu dis que tu as beaucoup lu pour te renseigner sur le personnage, l'époque, la politique de l'époque, etc. Mais est-ce que tu as aussi rencontré des gens pour écrire le scénario ?
Oui. J'avais déjà pas 5-6 personnes, mais beaucoup plus. C'était les conversations de mon père et de ma mère, les échanges de la maison avec Jacques Pardy. Mon père parle de moi tout le temps quand on était petit. Beaucoup de choses, je tiens de là. Et puis, corroboré par les écrits que j'ai lus à gauche et à droite et tout ça. Et les 2, 3, 4 personnes à qui j'ai posé des questions, qui savaient quand même un certain nombre de choses. Donc voilà, c'est tout ça qui m'a servi d'élément pour écrire mon scénario.
Parce qu'il y a aussi des passages qui se passent aussi en Belgique, des réunions parmi les politiques belges, etc. Tu as eu accès à des informations particulières ou tu as rencontré des gens particuliers pour pouvoir écrire ces passages ?
Quels passages, par exemple ?
Je pense à la réunion qui a lieu à Bruxelles, où ils invitent les différents membres des différents partis congolais.
Non, mais cette partie-là, c'est l'histoire de l'indépendance du Congo, qui est connue de tous les Congolais pratiquement, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de partis politiques. C'était des partis, disons, tribaux. C'était pas vraiment des partis politiques, c'était des mouvements tribaux, qui réfléchissaient un peu comme des politiques. Et à la revendication de l'indépendance, c'est convoqué une réunion, la Belgique a convoqué une réunion, une table ronde, qui s'est tenue ici, à Bruxelles. Voilà. Et tous les partis politiques étaient conviés à cette réunion, sauf Lumumba avec son parti, qui n'était pas représenté, parce que Lumumba, à un moment, il était victime d'une cabale, on l'a mis en prison. De ce fait, il ne pouvait pas participer à la réunion. Parce qu'il était quand même le plus c'est celui qui revendiquait le plus parmi les membres des autres partis politiques qui voulaient l'indépendance, évidemment. Et Lumumba était exclu. Puisqu'il était emprisonné. Et les autres sont arrivés, et il y a eu la réunion, et à la fin, ils se sont dit, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on n'associerait pas Lumumba ? Parce que ces partis politiques, en fait, moi, c'était des partis, comment on peut dire, rivaux. Ils ne s'attendaient pas à ça. Et ils sont venus à la table ronde de Bruxelles, en ordre de disperser. Chacun avec son agenda, et chacun, il devait parler langage différent. Et c'était ça, évidemment, qui a émaillé cette réunion. Mais vers la fin, ils se sont dit, on ne va pas évoluer comme ça, sinon ça ne sert à rien. Ils ont parlé d'un langage commun, et ils ont décidé de commettre encore, d'associer aussi Lumumba, le seul exclu de la réunion. C'est ainsi que Lumumba s'est joint aux autres plus tard. Cette partie, ça fait partie de l'histoire de l'indépendance du Congo, donc voilà. Mais ça revient dans la BD pour montrer comment Lumumba a joué les autres groupes pour discuter de l'indépendance.
Écoutez Bati Asimba, auteur de Lumumba, paru aux éditions du Crayon Noir, au micro de Culture Prohibée.
S'attaquer à une figure comme Lumumba en BD, c'est un pari plutôt ambitieux. Et quelle était ta volonté, ton but, alors, en faisant cette BD ?
Bon, quand on lit tous les écrits qui existaient sur Lumumba, on arrive à une conclusion. On présente un bandit. C'est un bandit. Un trouble-fête qui n'écoute que son entêtement et qui ne compose avec personne. Voilà. Et Lumumba est présenté comme ça. Et cet entêtement a conduit à sa mort. Tous les écrits presque sont orientés dans ce sens-là, quoi. S'il n'est pas présenté comme un communiste, dans ce contexte-là, c'est juste un bandit aussi, quoi. Un communiste, dans ce contexte-là, c'est juste un trouble-fête. Ce sont les casquettes qu'on a mises dans sa tête. Je me suis posé la question, est-ce que c'était réellement un bandit ? Et aussi, quand on lit les écrits sur le mouvement, c'est quelqu'un qui est venu de nulle part. Il est sorti de nulle part, il est tombé sur cette planète, comme ça, adulte, et du coup, il a commencé à faire des désordres. Est-ce que ce type, c'est un mystère ? Et la question clé, c'est qui est-il ? Quand je dis qui est-il, c'est que ce type, il doit avoir des parents. D'où la recherche pour retrouver le nom de ses parents, son père, sa mère. Et d'où vient-il ? Quand on dit d'où vient-il, on cherche ses origines. Nous, en Afrique, on peut dire que moi, je suis congolais, oui. Mais nous, en Afrique, l'origine, ce n'est pas les pays, l'origine, c'est les villages. Je suis allé chercher son village. J'ai retrouvé son village. Et dans son village, il y a maintenant des circonstances, des sa naissance, des événements qui ont précédé sa naissance. Et sa naissance même et la suite. Donc finalement, j'y retrouve la personne de Lumumba dans son village, tout enfant, de sa naissance, la maternité, tout ça. Et je commence à suivre ces personnages qui viennent de naître. Sa naissance, son enfance, sa scolarité, son évolution, son adolescence et l'âge adulte. Et voilà, jusqu'à ce qu'à un moment, il travaille aussi, il crée son parti politique. Mais seulement, je ne voulais pas vraiment plonger dans sa vie politique. Ça ne m'intéressait pas du tout. On en a tellement parlé. Chacun a donné sa version des faits. Chacun a maquillé la chose comme il pouvait. Ça ne m'intéressait pas de revenir encore là-dessus. Je suis allé dans une direction, je dirais, opposée. Chercher et présenter Lumumba comme un être humain simplement, parce que c'est un être humain. Retrouver son village, les retrouver à la naissance, suivre son enfance, suivre son adolescence, sa scolarité et tout. Mais seulement, la difficulté est qu'on ne peut pas parler de Lumumba sans toucher, sans tremper dans sa vie politique. Et cette partie-là, je l'ai traversée à grande vitesse pour arriver vers la fin. Et je ne voulais pas traîner là-dessus. Ça ne m'intéresse pas de parler de la vie politique. On en a tellement parlé. Il y a tellement de versions faussement vraies, et maquillées, arrangées à la guise. La personne qui voulait le présenter comme il voulait, ça ne m'intéressait pas. J'ai présenté juste un être humain. J'ai présenté ses origines. Et j'ai suivi son enfance, son adolescence. Donc voilà.
Oui, justement, la BD présente beaucoup d'ellipses. Donc, tu viens de dire que tu voulais présenter plutôt l'homme humain plutôt que l'homme politique. Mais comment aussi sur quels critères as-tu effectué tous tes choix d'ellipse et de montrer, par exemple, cet individu qui vole l'épée du roi lors du défilé, ou de montrer les différents partis qui prétendent avoir l'indépendance dans leur mallette, etc. Comment as-tu fait ces choix elliptiques pour raconter cette histoire ?
L'histoire de l'épée, c'est une histoire vraie. Quand le roi Baudouin est arrivé à Kinshasa, le 29 juin 1960, parce que l'indépendance était le lendemain, le 30 juin, et pendant qu'il passait, passait dans la ville parce qu'on devait les présenter, tout ça, et le public est venu l'acclamer. Il y a un monsieur qui s'est détaché de la foule, a approché les véhicules officiels et a arraché les sables du roi. Il a disparu dans la foule, il est parti. On n'a jamais retrouvé ce monsieur, ni les sables. Voilà, c'est une circonstance dans le cheminement vers l'indépendance qui est le résultat de ce qui s'est dit à Capéron. J'ai épinglé cet aspect-là et pour passer le truc à autre chose. Et là, vous avez évoqué quoi encore, à part les sabres du roi.
Enfin, ma question surtout, c'est quels sont les, pourquoi ces différents choix très elliptiques ? Parce que finalement, à un moment, Lumumba, on ne le voit plus dans la BD. Et il devient une icône, en fait, quelque part. On le revoit à un moment. Par exemple, je pense aussi à tu choisis de ne pas montrer son assassinat. Contrairement au film de Raoul Peck qui le montre, là, tu choisis de ne pas le montrer. Tu as une planche assez, plutôt une parabole, une très belle planche d'ailleurs, qui montre l'assassinat d'une façon parabolique. Mais tu choisis de passer là-dessus, de montrer autre chose.
Oui, vous avez parlé d'un moment, les retours de la table ronde, où oui. Les partis politiques parlaient de l'indépendance qui se trouvait dans la mallette. C'est aussi vrai, et pour moi, triste. Comment on peut comprendre que des personnes qui, au départ, étaient dans un antagonisme terrible, sont parvenues à se mettre d'accord, parler d'une seule voix, pour arriver à un résultat. On a obtenu quand même des résultats, c'était l'indépendance, la date de l'indépendance. Mais au sortir de cette réunion, ils sont rentrés au pays en ordre dispersé. Chacun voulait arriver le premier pour dire aux membres de son clan, parce que ce n'était pas des partis politiques, c'était des partis du mouvement tribal, que voici, nous avons arraché l'indépendance, c'est grâce à nous qu'on a eu l'indépendance, voici, et les gens applaudissent. Ils disent, voilà, j'ai l'indépendance dans ma mallette. Vous voulez que je vous le montre? Je vous la montre. Et puis les gens disent, ouais, on a l'indépendance. Le type dit, non. Si je vous montre, j'ouvre la mallette, je vous montre l'indépendance, et les gens des autres tribus, ils vont nous la voler. Autant garder là-dedans, et puis voilà, je l'ai ici pour vous. Et tout le monde a dit, ouais. Et tous les délégués qui sont rentrés, chacun dans son coin, a parlé le même langage. Voilà, ça fait tiquer, ça fait réfléchir, on se pose la question, comment ils en sont arrivés à ça? Et d'où ces flashs, dans la BD, après la table ronde, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cela? C'est des questions que les gens vont se poser après, moi je n'y dis que les flashs. Et la mort de Lumumba, moi j'ai vu des images depuis toujours, il y a deux images qui me choquent. Et on montre Lumumba à un moment, quelqu'un le tient par les cheveux, il tire. Et Lumumba, il a un regard à la fois triste et serein. J'aime pas cette image. Il a les mains ligotées derrière le dos. Je n'aime pas cette image, ça choque. Depuis toujours. Et notre image, quelqu'un le tient toujours par les cheveux. Et il fait manger quelque chose, je ne sais pas, c'est une photo noire, un truc blanc là. On lui fait manger quelque chose de fort. Et il refuse. On voit qu'il a serré ses lèvres, il ne pouvait pas malgré tout. Cette image-là, moi, ça me fait très, très, très mal. Mais dans les deux images, on va voir que Lumumba n'a plus ses lunettes. Il a les yeux plissés. Je me pose la question. Je me pose beaucoup de questions sur ces deux images. Et la première réponse pour moi est pas question de reproduire une image comme ça ou de présenter une scène comme ça. Pourquoi? Je me mets à la place de ces enfants. On a déjà vu vos pères dans des images comme ça, et puis on décide, ça tombe sur eux. Ah, les camarades vont dire, ah, voici votre père. Voici comment on a dessiné votre père. Comment les enfants vont vivre toute leur vie avec des images macabres comme ça de leur papa? Il est mort, c'est vrai. Il faut faire peut-être les deuils? Oui. Est-ce qu'ils ont fait les deuils? Peut-être oui, peut-être non. Mais pourquoi ces images doivent revenir de manière récurrente? Pour quel message? Ça ne sert à rien. Je vais plus loin. Je pense à ces petits-enfants qui leur balancent une image comme ça. Les camarades vont dire, ah, voici votre grand-père. Ils vont leur poser la question, qu'est-ce qu'il a fait pour que... Voilà, je ne voulais pas. j'ai élevé cette image clairement. Ben, j'ai fait une représentation à ma façon pour dire que voilà, l'homme vient de quitter cette planète. Simplement, je ne voulais vraiment pas ça, c'est délibéré, je ne voulais pas cette image parce que ça me choque. Je ne sais pas pourquoi on médiatise cette image-là, ça ne m'intéressait pas du tout.
Que peux-tu nous dire sur les éditions du Crayon Noir et ta façon de travailler ? Parce que je pense que tu contrôles tout de A à Z, de l'écriture jusqu'à la conception de l'album même.
Les éditions du Crayon Noir, c'est une histoire de fou. Une histoire de fou, parce que quand on regarde ma façon de travailler, on dirait même que je suis un fou. Et moi, je dis, les éditions du Crayon Noir, c'est les livres en fouille, parce que... Vous n'avez pas vu mon catalogue, vous n'avez pas vu aucun des registres de travail. Vous savez ce que j'ai fait tout. C'est la sommation de plusieurs déceptions. C'est la sommation de tout ce qu'on a mis sur mon parcours pour me pousser à la suite, m'empêcher d'évoluer, m'empêcher d'émerger. Alors, je me suis dit, tiens, comme il en est ainsi, je vais m'élever tout seul. Avancer tout seul, comme un grand garçon, et arriver au résultat. D'où j'ai créé les éditions du Crayon Noir. Et là-dedans, j'écris mes propres scénarios. J'ai fait moi-même les dessins, j'ai fait moi-même les couleurs, et j'ai fait moi-même l'édition, et j'ai même jusqu'à faire, aller assurer la distribution. Et ça s'est fait. Je suis à ma deuxième bande dessinée, et j'ai l'impression que ça marche bien.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland dit Le Loup-Garou Picard and the Last, but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Manien à la technique. Salut les gens, à la prochaine. Thank you.